Est-ce que vous connaissez le test de Reese? Vous savez, c'est le genre de test que tout le monde déteste, hein, un petit peu comme le test de Bechdel, d'après une bande dessinée de l'américaine Alison Bechdel, pour une plus juste représentation des femmes à l'écran. Il s'agit simplement de se poser des questions très simples. Dans ce film que je viens de voir, est-ce qu'il y a au moins deux personnages féminins dont on connaît le prénom et le nom de famille? Est-ce qu'il y a au moins deux personnages féminins qui discutent ensemble? Et enfin, est-ce qu'il y a au moins deux personnages féminins qui parlent d'autre chose que d'un homme? Je vous rassure, il s'agit pas de censurer les films qui répondent pas à ces critères, qui sont incomplets d'ailleurs ces critères. Prenez-le plutôt comme un jeu qui permet d'ouvrir les yeux sur la similarité des histoires qu'on nous raconte, sur les héros et sur le monde que le cinéma propose. Maintenant, le test de Reese, du nom de l'acteur Reese Ahmed, qui pose souvent la question de la présence et de la représentation des musulmans à l'écran. Dans le film que je viens de voir, est-ce qu'il est question de terrorisme? Tiens, les personnages sont-ils systématiquement irrationnels ou en colère? Leur culture est-elle présentée comme archaïque? C'est une bonne question, ça. Sont-ils dépeints comme une menace pour l'Occident? Et enfin, sont-ils misogyne ou opprimé s'il s'agit de personnages féminins? J'ajouterais pour ma part, existent-ils ces personnages musulmans? Sont-ils au moins présents? Là encore, il s'agit simplement de se poser des questions, pas d'interdire quoi que ce soit, c'est un test, un jeu, pour ouvrir peut-être les yeux sur la représentation à l'écran de plus d'un quart de la population mondiale quand même, qui pour la plupart ne se ressemble pas et qui pourtant n'échappe que très rarement aux stéréotypes et au silence. C'est quand même intéressant.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel cinéma et quelle représentation défend mon invité d'aujourd'hui? Révélé dans Le Prophète de Jacques Audiard, il est devenu en une dizaine d'années l'un des espoirs de Hollywood. Son rôle dans Désigné coupable de Kevin MacDonald, avec Jodie Foster notamment, lui a valu une nomination au BAFTA anglais, je le disais, et aux Golden Globes. Un film qui raconte l'histoire vraie d'un homme innocent soupçonné d'être l'un des auteurs des attentats du 11 septembre et qui passera 14 ans de sa vie dans la prison de Guantanamo. C'est une performance d'acteur assez magistral pour celui qui sera par ailleurs dans le jury du Festival de Cannes cette année. Bonjour Tahar Rahim.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, je sais que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Que révèle ce test sur les représentations des musulmans à l'écran?
C'est une question intéressante que tu as bien introduit en début de l'émission. Oui, c'est une question intéressante et importante, je pense. Et en fait, le Reese Test est né à la suite d'un discours que Reese a fait un jour, très important justement sur la représentation, la non-représentation plutôt, des musulmans dans le cinéma américain, hollywoodien, anglo-saxon et dans d'autres territoires. Et là, maintenant, il est devenu très actif. Il a créé un mouvement. Et en fait, c'est très important. Donc, il donne des chiffres, en fait. Et c'est pour ça que je voulais parler des chiffres aussi, pour que ce soit plus précis. C'est-à-dire qu'en gros, sur 200 films, dans 181 films ne comportent pas de personnages musulmans. Dans les 9000 personnages représentés dans ces films-là, seulement 1,6% parlent. Dans ces 1,6%, 53,7% sont des cibles de violence. 39% sont ceux qui créent la violence. Et moins d'un quart des personnages sont des femmes. Donc il y a un vrai problème de visibilité et de représentation.
Et comment on peut expliquer, Tahar Rahim, que ces représentations soient si nombreuses, qu'elles soient pour ainsi dire majoritaires, plus encore dans le cinéma américain d'ailleurs que dans le cinéma français? Comment on explique ça?
En fait, je sais pas trop. Après, on sait toujours qu'il y a toujours eu des stéréotypes sur, à un moment donné, ça a été les Russes. Il y a toujours et je dis pas que le cinéma américain provoque que ça, parce que ils sont quand même assez rapides pour eux-mêmes remettre en question, critiquer et frapper leurs propres problèmes à travers le cinéma. Par exemple, Les Hommes du Président sur le Watergate, c'était fait très vite après. Ils sont capables de ça aussi. D'ailleurs, c'est leur meilleur film en général. Mais le mainstream, c'est celui que tout le monde regarde, qui est très populaire et le plus accessible. Celui-ci a un problème de représentation. Pourquoi? Franchement, j'en sais rien.
Il y a eu un tournant avec le 11 septembre, évidemment.
Ça a tout changé. Alors avant, déjà, c'était totalement inexistant. Et ensuite, avec le 11 septembre, évidemment, les attaques qu'il y a eu, forcément, chaque mouvement, chaque tragédie, chaque drame provoque un cinéma, en tout cas pendant un moment, oui, une façon de le représenter.
Le miroir déformant de la réalité que peut être le cinéma, parce que c'est ça que vous nous racontez, dans quelle mesure vous en avez souffert en tant que spectateur, Tahar?
En tant que spectateur, alors c'est encore différent parce que c'était différent. Quand j'étais enfant et que je regardais le cinéma, à la télé et tout, tous mes héros, quand j'ai voulu être acteur aux alentours de 14-15 ans, Mes modèles, je les ai trouvés dans le cinéma américain des années 70, parce que j'arrivais à m'identifier.
C'est passionnant.
Ouais, très passionnant. Maintenant, je trouvais pas d'identification directe dans le cinéma français que je regardais. Sauf celui de Gabin. Parce que le cinéma d'entre-deux-guerres était un cinéma très social. On pouvait encore s'identifier. Qui représentait des gens un peu issus de toutes les strates sociales françaises. Mais entre-temps, j'avais rien. Et c'est comme ça, en fait, que mon amour pour le cinéma des années 70 est né.
Mais en tant que comédien, comment on fait pour ne pas aller dans le sens du cliché, du stéréotype? Je veux dire, on est obligé de travailler, quand même.
Ben ouais, il faut beaucoup travailler, il faut faire des choix, il faut dire non, beaucoup.
Vous avez beaucoup dit non?
Oui.
À quoi?
À des films, justement, qui après Un prophète, en fait, j'ai eu pas mal de propositions qui revisitaient un peu ce film en moins bien. Donc déjà, je me disais, c'était pas intéressant. Ensuite, c'était très souvent des personnages stéréotypés ou qui ne m'intéressaient pas ou que je voulais pas explorer. Donc il y a vraiment une histoire de choix là-dedans, de pas avoir peur d'intégrité d'acteur et de se dire, bon, si ça marche, ça marchera comme je l'espère. Sinon, ben tant pis, c'est pas grave.
Dans ce parcours de comédien, Taraïm, aussi bien en France qu'aux États-Unis, la patience, ça a été le plus grand des outils, à vous entendre.
La patience, c'est le travail. Après, la patience, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que je suis très très impatient, mais ça a été un travail que j'ai dû faire intérieurement assez laborieux.
Ça s'apprend, la patience?
Oui. Oui, ça s'apprend. Ça se gagne aussi avec le temps.
En tout cas, ça a été payant. Votre rôle dans Désigné coupable vous a même valu, je le disais, une nomination au Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur. Ce rôle, qu'est-ce qu'il a changé pour vous, en vous?
En moi? En fait, la philosophie de Mohamed Dou, ce qu'il a traversé, parce que c'est une histoire vraie, malheureusement, et est-ce qu'il en sort, en fait? La manière, il entre en étant un certain homme, il en sort en étant un homme encore plus bon et beaucoup plus sage, ce qui est... presque inimaginable. Et en fait, lui, la philosophie qu'il a décidé d'adopter, et qui, je crois, en vérité, devait certainement être quelque part dans son ADN, était de se dire, ben voilà, je vais pardonner tout le monde, qui que ce soit. Et d'arriver à faire ça, c'est quand même incroyable. Je dis pas que j'en suis capable, mais en tout cas, de le prendre comme balise de direction, c'est une belle chose.
Je le rappelle, Mohamed Ould-Slahi, mauritanien, suspecté d'avoir participé à l'organisation des attentats du 11 septembre, qui a passé 14 ans à Guantanamo avant d'être libéré, entre-temps torturé jusqu'à ce qu'il avoue un crime qu'il n'avait pas commis. C'est un film biographique et on l'entend, il faut un coupable. C'est ça que raconte quand même ce film. C'est un bouc émissaire, peu importe qu'il soit coupable ou non. Pourquoi a-t-on besoin de coupable, à votre avis, Taraïm?
Bah d'abord, je me dis qu'on a besoin de coupables parfois parce qu'on n'est pas capable de se regarder soi-même. Ça, c'est une chose. Et je pense que ce sont les peurs qui provoquent tout ça. La peur provoque une violence inouïe parfois. Et c'est ce qui s'est passé justement avec après le 11 septembre, avec la création de Guantanamo, qui n'est toujours pas fermée d'ailleurs, malheureusement. Il y a encore des détenus là-bas qui sont en train de pourrir dans les cellules sans jugement. Et ouais, je pense que la peur est un vrai problème.
Alors qu'est-ce qui permet à une société, à une communauté de faire corps? Parce qu'il s'agit de ça, en fin de compte. D'être ensemble.
D'être ensemble, d'accepter la différence de l'autre, de pas avoir peur de quelqu'un qui vous ressemble pas.
Le cinéma permet ça?
Ouais, je crois. Enfin, je l'espère.
Celle qui ne fait corps avec personne dans cette émission, vous la connaissez, tard, c'est la culture et son actualité qui passe son temps à semer la discorde. Que se passe-t-il donc aujourd'hui lundi 28 juin?
Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères, retrouvez-nous le 2021.
Ce fichu microbe nous a mis un de ses micmacs dans le calendrier, mon vieux.
Last but not least, renommée dernière séance, la projection du film de clôture du Festival de Cannes, organisée après l'annonce du palmarès, accueillera donc cette année OSS 117, Alerte en Afrique Noire. Troisième volet des aventures de l'espion français le plus couillon du 7e art. Le film porté par Jean Dujardin, Pierre Ninet et Fatou Ndiaye est la prochaine réalisation de Nicolas Bedos qui récupère les rênes de la saga à la suite de Miguel Azanavicius. Pour le reste de la France, le film est attendu en salle le 4 août prochain.
2 millions. Adjugé 2 300 000.
Un vieil homme dégarni à la barbe blanche lisant un énorme ouvrage, le coude appuyé sur une pile de livres, le philosophe lisant, toile du maître français Jean-Honoré Fragonard, s'est arraché aux enchères samedi. Originalité, le tableau ovale réalisé vers 1770 avait disparu pendant 200 ans. Il a été retrouvé en parfait état de conservation au printemps dans le salon d'une propriété privée de la Marne, chez une famille qui ignorait totalement l'origine et la valeur du chef-d'œuvre, à savoir 7,68 millions d'euros. Banco! La cérémonie des BET Awards, qui célèbre chaque année le meilleur de la musique, du cinéma, mais aussi du sport et du militantisme noir américain, s'est tenue cette nuit à Los Angeles, articulée autour du thème de l'année de la femme noire. La soirée a vu le sacre de la rappeuse Megan Thee Stallion, qui repart avec 4 prix, dont celui de la meilleure artiste hip-hop de l'année. Dans le reste du palmarès, on trouve notamment la légendaire Queen Latifah, honorée pour l'ensemble de sa carrière, la chanteuse Her, désignée meilleure artiste R&B, ou encore Cardi B pour sa collaboration justement avec Megan Thee Stallion sur le tube WAP You Go Girls.
Le centre Pompidou a déjà obtenu un grand succès, un succès de curiosité.
Et enfin, tout est bon dans Le Bon. Actuel président du musée Picasso, Laurent Le Bon a été choisi pour prendre la tête du centre Pompidou. Il succède à Serge Lasvigne, dont le mandat se termine en juin. Expert en art moderne et contemporain, personnalité incontournable de l'univers muséal français, Laurent Le Bon avait notamment piloté le lancement à succès du centre Pompidou-Metz en 2010, avant d'être nommé en 2014 au musée Picasso. L'une de ses premières missions à Beaubourg sera d'imaginer et de gérer l'offre culturelle de l'établissement durant le vaste chantier de rénovation qui s'étendra de 2023 à 2027. Et le comédien Taha Rahim, invité de Boomerang ce matin pour parler de cinéma. Après tout, vous ferez partie quand même du jury du 74e Festival de Cannes, dont le coup d'envoi sera donné la semaine prochaine. Et vous vous définissez souvent comme un enfant de la salle, Taha. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire que j'ai pas, malheureusement, j'ai pas vu la Vierge comme beaucoup de gens qui découvrent un film puis ils se disent waouh, c'est le film que je veux, ou là, un rôle ou quelque chose, j'ai envie d'être acteur. Ou peut-être, mais j'en ai aucun souvenir. Moi, c'est la salle qui m'a amené à ça, en fait, au cinéma. C'est l'ennui, d'abord, qui m'a amené à la salle. Et ensuite, quand la salle, ça a quand même, c'est quand même un univers, c'est presque une dimension. Moi, en tout cas, où je me sens bien, à l'aise, seul, mais avec tout le monde.
Quand est-ce que vous avez commencé à y aller au cinéma ?
Abondamment, à partir de 14-15 ans.
En cachette ?
En fraude.
Le premier film que vous ayez vu, c'était quoi, vous vous souvenez ?
Le premier film que j'ai vu, je crois pas que j'ai souvenir. J'ai un souvenir très fort de télé, d'un film, et c'était Le Professionnel avec Belmondo, où je me souviens, j'étais tellement petit que je pouvais pas faire la différence entre la réalité et la fiction, et je pensais qu'il était vraiment mort à la fin. Et c'est ma mère qui est venue me rassurer en me disant c'était un film, il est pas mort.
C'est intéressant, en fait, qu'est-ce qui vous ont permis les films ? Qu'est-ce qui vous a permis le cinéma ?
À m'éduquer en partie, à voyager, à découvrir d'autres cultures, à découvrir d'autres langues, à découvrir un peu le monde, à aussi m'approprier des styles, des façons de parler, etc., que je pouvais réutiliser dans ma vie pour impressionner.
Par exemple.
Je sais pas, des trucs tout cons, mais quand je voyais la manière... Enfin, j'ai un peu oublié ce que je répétais, mais il y avait certains adages que je découvrais au cinéma, certaines phrases, une façon de s'habiller que je pouvais récupérer, j'en sais rien, moi. La veste de Johnny Depp dans le film avec Al Pacino. Pardon, j'ai un trou.
On va retrouver les auditeurs et les auditrices de
qu'est-ce qui m'arrive,
moi,
enfin. Denis Brasco. Je la voulais, alors je l'ai trouvé en friperie. Je m'habillais un peu comme ça.
Vous parliez comme Gabin.
J'imitais.
Comédien, ça vous a permis aussi, le cinéma, je suppose, d'imaginer devenir comédien. Ce métier, quelle image est-ce que vous en faisiez, vous?
Je pense que je fantasmais comme tout jeune garçon qui voit peut-être plus ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire la fame, hein, en vérité. Et en fait, plus on avance, plus je me rendais compte que c'était pas ça qui m'intéressait, mais vraiment ce qui se passait à l'intérieur, derrière l'écran.
Et alors, il y a un moment donné où vous quittez tout, l'Est de la France, vous plaquez tout, vous montez à Paris pour tenter votre chance pour la première fois de votre vie. Vous avez pris des cours de théâtre et là, vous vous êtes rendu compte, Taha Rahim, qu'il y avait encore du travail. C'est un mot qui revient toujours chez vous. Ce travail, il est passé par quoi, concrètement ?
D'abord, il est passé par le travail vraiment concret, un travail alimentaire où je devais travailler jour et nuit pour pouvoir payer. Parce que je suis arrivé à Paris, je savais pas où j'allais dormir, j'avais 1500 euros en poche, donc il a fallu travailler pour vivre. Et ensuite, le travail, c'était d'abord tuer le ridicule, ne pas avoir peur de faire des choses sur scène, d'accepter en fait qu'on est peut-être pas du tout bon, mais que ça s'apprend. Paul Newman disait lui-même qu'il était mauvais acteur au départ, et qu'il a appris à être bon. Donc c'était rassurant d'entendre ça.
Au fond, qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre, à assimiler, pour vous ?
C'est un peu compliqué. Le regard des autres, peut-être, ouais, sur scène. Parce que c'était pas pareil quand on se retrouvait à travailler des scénettes face à des acteurs en cours de théâtre. Ben on est face au public le plus dur qui existe. Et de me dire, ben quoi qu'on me demande, même si c'est pas comme ça que je ferai la chose, ben je vais le tenter.
Alors évidemment, à un moment donné, il y a eu un tournant. Ça a été Le Prophète, quand même réalisé par Jacques Audiard, immense succès public et critique, un film de prison, comme désigné coupable d'ailleurs, qui vous a valu un double César du meilleur espoir et du meilleur acteur. Inouï, qu'est-ce qui vous a appris ce film ?
Ah bah, il m'a appris d'abord ce qu'était un plateau, ce qu'était un vrai personnage, tout ce qui se passe sur un plateau, ce que c'est que la construction d'un film, un montage. C'était une grande école parce que Jacques est un merveilleux directeur d'acteurs. Et en fait, il m'a appris à me libérer, à me faire confiance, à me dire que, bah voilà, mon intuition parfois est juste. Donc je peux tenter. Et c'est pas grave, on peut se tromper, on est là pour ça.
Alors justement, pour désigner coupable, ce nouveau film, vous dites que vous n'êtes jamais allé aussi loin dans un rôle. Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire que, pour la première fois de ma vie, et le rôle le permettait, ça relevait peut-être un peu plus d'une expérimentation, à un moment donné, que d'une interprétation. Où j'avais la possibilité, si j'allais le plus loin possible, si j'allais un peu me brûler, de caresser une forme de vérité.
Et comment on se sent quand on se brûle, justement, quand on va presque trop loin, Taharaïm ?
Autrement vivant.
Ah, c'est vrai ?
C'est intéressant.
C'est ça qu'on atteint, en fait, le vivant ?
Ouais, le réel.
Comment est-ce que vous savez quand vous avez été bon, quand vous avez été juste, quand vous avez été vrai ?
Je sais jamais ce que ça va être après. Mais je le sais quand je sais plus si je suis dans la vérité ou pas.
On va reparler ensemble de rôles, de jeux, de défis aussi, juste après une caresse du lundi, parce qu'on est comme ça, figurez-vous. Surtout, la dernière semaine de la saison de Boomerang, de cette saison de Boomerang, Bob Dylan, dont la chanson The Man and Me incarne littéralement votre film. Vous êtes sur France Inter avec Taharaïm. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'il est très convaincant quand même, hein, le sourire américain, la danse saine, l'œil qui pétille, l'énergie positive, solaire, communicatif, on a envie de lui ressembler, d'en faire son coach de vie, qui sait, son prophète, j'espère que vous l'avez. Tout en veste en daim et t-shirt, ce matin, le comédien Taha Rahim, invité de Boomerang, pour parler d'incarnation et de ce rôle quand même charnière dans votre carrière, on l'a compris, dans ce film désigné coupable de Kevin MacDonald. À quoi ça tient l'incarnation d'un personnage ? La bonne incarnation.
Wow, ça c'est une bonne question. À la croyance profonde et à l'abandon, je pense.
À trouver son corps aussi, je me suis demandé en voyant ce film précisément. Non, dites-moi.
Le corps, ouais. Oui. C'était absolument nécessaire, d'abord pour une question de véracité. Il fallait vraiment atteindre un corps très fin, très maigre, très violenté. Ça a été très dur. Mais ça aide en tout cas dans le jeu. Moi, j'aime passer par le physique en premier. Parce que ça me permet peut-être de marcher différemment. Et puis les sentiments, parfois, les sensations prennent d'autres chemins.
Et comment vous faites lorsque vous entendez moteur, que la caméra tourne et que vous n'arrivez plus à le trouver, ce corps qui vous échappe? Je suppose que ça doit arriver.
Ouais, je m'énerve un peu. Je m'énerve contre moi-même. Je tourne en rond, je fais les 100 pas. Je suis pas content. Parfois, je demande juste 2-3 minutes histoire de me reconcentrer. Mais il faut que je me réveille, en fait. Je me dis, j'ai besoin d'un vrai coup d'électricité parce que j'ai pas le choix, en fait. Il faut que ça se passe.
Dans quelle mesure, Taha Rahim, jouer la comédie, incarner un personnage, c'est toujours, d'une certaine façon, se battre contre soi-même?
Parce que ça peut pas être simple. En fait, ça peut pas être facile. Si c'est facile, j'ai un problème. Je me dis, je peux pas réussir ce qu'on me demande comme ça aussi facilement.
Parce que c'est quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, j'arrive pas à y croire. Donc, il faut que j'aille continuer à me faire violence, chercher quelque chose. Et une fois que j'atteins un truc où je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai ressenti, je me dis bon, même s'il garde pas ça, j'ai fait mon travail.
Ah oui, donc il y a quand même un déclic, il y a quand même un petit truc où vous vous dites là, je suis sur un point, c'est quoi, qui n'est plus moi-même en fait?
Qui est pas forcément, mais qu'on a atteint quelque chose, c'est très difficile à définir, vraiment. Mais je me dis, je me suis abandonné à quelque chose. J'ai cru en quelque chose, je m'y suis abandonné, j'y suis allé, j'ai plongé. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai rempli ma mission d'une certaine façon.
Vous savez pourquoi je vous parle de corps? C'est parce que le corps de ce personnage, il est absolument au centre du film, ce corps séquestré, enfermé, mis à l'isolement, maltraité, torturé, supplicié. Et au fond, la question qu'on se pose, parce qu'il s'agit quand même d'une histoire vraie, c'est de savoir comment ce corps, il a tenu. Comment, Taha Rahim?
Grâce à l'esprit. Ben voilà, grâce à sa foi, grâce à son mental.
C'est ce que vous avez fini par comprendre, ou vous le saviez déjà quand vous avez commencé le film?
En parlant avec lui, je le savais, mais une question restait un peu en suspens que j'avais du mal à comprendre, c'est justement le pardon. Et je lui dis, mais à un moment t'étais fâché quand même. Il me dit, oui, j'ai même été fâché contre Dieu, je comprenais pas pourquoi j'étais là. Mais le jour où j'ai compris qu'en les pardonnant, je me libérais, c'était une faveur que je faisais à moi-même, eh ben, ça m'a permis, en tout cas moi, de tenir le reste de cette horreur.
Vous en êtes servi de ça pour justement incarner toute cette souffrance physique et psychique en tant que comédien?
Ah oui, je me suis complètement inspiré de lui. Vous imaginez que dans un scénario, il y a 120 pages, où il y a plein de questions, plein de réponses. Et là, en face de moi, j'avais quelqu'un qui mesurait pas 120 pages, mais 45 ans. J'avais toutes les réponses que je voulais, quoi.
Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en vous, Taha? Pour ce personnage,
je suis allé chercher des souffrances profondes. Je suis allé chercher des. Il y a un moment où, c'est des choses. Parfois, j'aime pas utiliser les drames que j'ai vécu dans ma vie. Ou des fois, j'aime pas parce que c'est violent. Mais cette fois-ci, c'est arrivé tout seul. Moi, j'ai perdu ma maman et Mohamedou aussi. Et quand il hallucine, à un moment donné, il a vraiment halluciné et il a vu sa mère dans cette cellule. D'ailleurs, il y a une scène où il divague.
Oui.
Et ben ce jour-là, je savais plus si je voyais la mienne ou l'actrice. Et ça s'est passé, je me souviens être allé voir le réalisateur et je lui ai dit, je pourrais pas le faire deux fois en fait. Et je me suis écroulé.
C'est cet abandon dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez beaucoup pleuré pendant ce film?
Non, pas pendant le film, mais en lisant le scénario.
Se laisser aller à exprimer ses émotions, quel défi est-ce que c'est pour le comédien que vous êtes, particulièrement depuis vos débuts, parce que je suppose que ça a dû évoluer. Ça.
Oui. Le défi, c'est de... La pudeur a plusieurs formes. Hein. Et justement, cette pudeur-là, de la pudeur des sentiments, de l'avoir dépassée, de pas avoir peur maintenant de le montrer à tout le monde quand on peut le faire, parce que c'est quand même difficile quand on doit le réinterpréter. Mais ça, c'est une chose que je suis content d'avoir acquis, parce que ça a déteint dans ma vie personnelle de tous les jours. J'ai moins peur de montrer mes sentiments. Ça m'est égal de ce qu'on va penser en face.
Mais au fond, qu'est-ce qu'on contrôle quand on joue? Qu'est-ce que vous contrôlez, vous?
Quand on joue, qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle le débordement.
C'est dingue.
Parce qu'à un moment donné, un personnage, c'est aussi... c'est à une forme. Et si on déborde de la forme, ben on n'est plus vraiment dedans. Vous voyez?
Vous êtes venu avec un texte ce matin, Tarahim, un texte que je ne connaissais pas, que je découvre, un texte d'Elia Kazan que vous avez choisi. C'est une sorte de profession de foi de l'acteur. Pourquoi ce texte-là?
Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est exactement la définition justement de l'abandon d'un acteur, d'une autre qualité principale que serait sa disponibilité, sa générosité. Et je trouvais qu'il avait mis les mots parfaits sur quelque chose que j'aurais jamais pu expliquer.
Ça s'appelle The Actor's Vow. On vous écoute.
Je prendrai ma juste place sur scène et je serai moi-même. Je ne porte pas sur moi toute la douleur du monde. Je n'ai aucune raison de m'excuser d'être là. Je réagirai en fonction de mes émotions, quitte à être maladroit ou vulgaire. Mais je réagirai. J'ouvrirai ma gorge. J'ouvrirai mon cœur. Je serai vulnérable. Je pourrai tout ou ne rien obtenir de ce que le monde a à offrir, mais ce dont j'ai le plus besoin, et ce que je désire plus que tout, c'est d'être moi-même. J'accepterai le rejet, j'accepterai la douleur, j'accepterai la frustration, j'accepterai même la mesquinerie, j'accepterai la honte, j'accepterai l'outrage, j'accepterai tout, tout ce qui m'arrivera. Ce que j'ai de meilleur et de plus humain est enfoui en moi, j'y penserai toujours. Je ferai en sorte que ma voix s'élève et je serai entendu.
Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même quand on est acteur, Tarahim?
Ça veut dire s'accepter tel qu'on est, s'aimer soi-même, ne pas attendre simplement d'être aimé des autres.
Et les mots d'Elia Kazan, ils nous parlent quand même d'une voix qui s'élève, une voix qui demande à être entendue. Ça vous est arrivé à vous d'avoir le sentiment qu'on ne vous entendait pas?
Bien sûr.
J'adore comme il dit ça.
Beaucoup de fois d'ailleurs. Je viens d'une famille de 10 enfants, je suis le dernier. C'est difficile de se faire entendre.
Ça, c'est vrai. Il faut parler très fort.
Il faut parler très fort et très vite.
Ouais. Moi aussi, je l'ai vécu. J'ai vu nombreux aussi.
Tu vois ce que je veux dire?
Vous avez parlé très fort?
Je parle au début, pas peu. Et puis après, j'ai parlé très fort dehors, à l'école.
Et puis politiquement aussi. Se faire entendre, c'est aussi se faire entendre politiquement. On en revient à ce dont on parlait au début.
Bien sûr. Oui, effectivement.
De l'émission.
Effectivement. Et je suis pas... Évidemment, je suis pas politicien, mais voilà, j'aime pas trop m'exprimer politiquement comme ça ouvertement partout parce que
là vous l'avez fait.
Pas qu'il faut pas le faire
au début de l'émission.
Mais je l'ai fait mais par le biais du cinéma et c'est par ça que je passe. Je me dis quand on veut connaître mes points de vue politiques, ça passe par le cinéma, par le choix de mes films. On peut les voir.
Au fond, pour qui elle s'élève? Pourquoi elle s'élève votre voix aujourd'hui, Tarahim?
Pour mes enfants, pour les enfants de la France qui vont arriver.
Pour
les jeunes, pour demain.
Merci infiniment d'être venu dans cette émission tard. Je rappelle que Désigné coupable de Kevin MacDonald avec Jodie Foster et Shailene Woodley, entre autres, sort le 14 juillet. Je précise également qu'on peut toujours vous voir dans Le Serpent sur Netflix et qu'on vous attend sur La Croisette au Festival de Cannes à partir de la semaine prochaine comme membre du jury de Spike Lee. Là, il va y avoir du cinéma aussi. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça.
conséquences, moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends, c'est ton fou rire après. J't'ai perdu, j'savais plus combien j'étais. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, j'vois pas mieux qu'un autre, j'vois pas mieux que ça.
Rodéo, Hervé sur France Inter et tout de suite les médias avec Sonia de Villers, l'instant M.